Alors ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble un chapitre de l'évangile de Luc, chapitre 15, si vous voulez prendre ce chapitre avec moi. Luc 15, et on va lire tout le chapitre. Il est dit ici, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? » Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. » Le jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. On va s'incliner encore une fois dans la prière. Seigneur, merci encore de la grâce d'avoir ta parole et de tout ce que tu nous enseignes par elle. Que tu veuilles bénir dans ta grâce ce qui va être partagé, que tu gardes, inspires, diriges, conduises. Donne ta paix, Seigneur, et ta grâce, ton humilité. Et merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est un passage, on a l'habitude de le voir en général, qui est développé, surtout l'histoire du fils prodigue, plutôt orienté vers une présentation de l'évangile, du salut, hein, le Père qui accueille le pécheur qui est repentant. Mais Jésus est ici en train de s'adresser à des Juifs. Il enseigne des Juifs, et des Juifs religieux notamment, qui étaient en train de murmurer contre lui. Voilà, ils avaient des reproches à lui faire. Et donc le Seigneur est en train de leur parler à eux, à son peuple, à sa maison en quelque sorte, hein. Et lorsque l'on arrive à la parabole du fils perdu, ou de l'enfant prodigue, comme on a l'habitude de l'appeler, il s'agit d'un père avec ses deux fils. Un père et ses deux fils. C'est une même famille. Donc, les deux fils représentent deux types de juifs, en fait. Et le père représente Dieu lui-même. L'un des fils est fidèle, ou semble être fidèle, et puis l'autre, eh bien, est rebelle. C'est un rebelle. Et tous les deux sont au sein du même foyer. Et par ces paroles, eh bien, Dieu voulait, Jésus voulait enseigner les Juifs au sujet de leur attitude qui était méprisante vis-à-vis des autres Juifs. Certains étaient fidèles au judaïsme, donc voilà, ils voulaient mettre bien en pratique le judaïsme, mais ils avaient un problème de jugement assez grave vis-à-vis, eh bien, des autres Juifs qui ne respectaient pas autant et qui partaient dans une vie de péché. Alors j'aimerais qu'on regarde ce texte un peu d'une manière différente ce matin. J'aimerais qu'on en fasse une application à l'Église de Jésus-Christ. Donc voyez ce matin dans ces deux fils une image de deux chrétiens. Voilà. Vous avez l'image de deux chrétiens. Et le titre de mon message, c'est l'incompréhensible pont d'or. Et donc c'est l'histoire d'un fils qui ne comprend pas son père. Donc quand je parle de ce fils, c'est le fils aîné. Le fils aîné ne comprend pas son père. Le texte ne nous donne pas les détails, mais tout est là en fait, c'est une évidence, c'est clair, hein, surtout quand on voit l'issue de l'histoire. L'aîné ne comprend pas son père. Donc le père a un jeune fils qui veut recevoir l'héritage, hein, le bien qui lui revient, il veut son héritage, et le fils aîné, lui, est spectateur de la scène, il regarde l'attitude de son jeune frère. Le cadet, lui, il veut son indépendance. On a marre, hein, de l'autorité. Moi, je veux m'envoler de mes propres ailes, je veux faire ma vie, je veux voir le monde. Il ne veut plus d'autorité, il ne veut plus de compte à rendre à personne. Et puis, il a une idée de tout ce qu'il pourrait faire si jamais le père, eh bien, répond à sa demande et lui accorde son héritage. Et ce jeune garçon, il voit grand, il voit loin. C'est souvent comme ça, hein, quand on est jeune, il y a une ambition parfois qui est très grande. On pense pouvoir mener sa vie seul, sans l'aide de son père. Ici, lui, c'est ce qu'il pensait. Et donc, il réclame le bien qui doit lui revenir. Et imaginez le fils aîné qui, lui, est spectateur. Lui, il regarde la scène. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur quand il a vu ça? Lorsqu'il a vu que son petit frère venait voir son père pour demander l'héritage. En fait, c'est facile d'imaginer, on pourrait dire que c'est extrapolé, mais c'est facile de l'imaginer vu au moins ce que nous dit le texte à la fin. À l'époque, quand un jeune homme quittait le foyer familial, c'est parce qu'il avait trouvé une épouse, et puis ben voilà, il partait fonder un autre foyer. Mais ici, lui, il n'a pas de but, hein, il n'a aucun but en fait, il veut s'enfuir plutôt. Alors le frère aîné, eh bien, tout de suite, forcément, c'est placé en juge vis-à-vis de son petit frère. Et on peut l'imaginer dire, « Père, mais ce n'est pas sage ce qu'il veut faire, mon frère, là. Tu ne vas pas lui donner l'héritage, quand même. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas le laisser partir et faire sa propre volonté. Père, ne lui donne pas. Non. C'est parce qu'il ne veut pas travailler qu'il veut l'héritage. Père, il ne veut pas t'obéir. C'est de la rébellion, père. Ne lui donne pas ta bénédiction en partageant l'héritage. Non. Tout ce qu'il mérite, c'est que tu le reprennes pour son insolence et son péché. Père, punis-le, prive-le de l'héritage. Il ne le mérite pas. Et si tu lui donnes rien, ben, il sera bien obligé de rester à la maison, à la ferme et de travailler. C'est probablement ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme, hein, vous savez, de ce grand frère. Et vous savez, dans la famille de Dieu, parmi les chrétiens, on peut être parfois comme ces deux fils. L'un veut prendre son indépendance, il veut faire sa propre volonté, et l'autre, qui reste dans la maison, eh bien, il devient sévère vis-à-vis de son frère. Il se dit qu'il mérite d'être puni par Dieu quand même, c'est pas possible ça. Et parfois, il est même convaincu de la manière dont Dieu devrait agir pour punir son frère qui n'est pas très fidèle. Parfois même, il prie que Dieu fasse ceci ou cela pour empêcher son frère de partir. Dieu doit le retenir. Dieu doit l'arrêter. Il doit le priver de l'héritage. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Et c'est là qu'il y a un incompréhensible pont d'or. Verset 12. Oups. Si quelqu'un veut relever, c'est pas grave. Verset 12. Le plus jeune dit à son père: « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Donc le père a probablement vendu des terres et puis il a donné à son fils cadet l'argent qui correspondait à son héritage. « Tu veux partir, mon fils ? Ben tiens. Tiens, je te donne. » Voilà. Et c'est déroutant. C'est quelque chose qui est déroutant. Comment est-ce possible ? Maintenant, si c'est déroutant pour nous, eh bien, c'est peut-être aussi parfois qu'on ne connaît pas suffisamment Dieu. On connaît mal son amour et on connaît mal sa manière d'agir. On se dit peut-être que nous, on aurait fait autrement si on avait été Dieu. Mais qui sommes-nous à côté de Dieu le Père ? Est-ce qu'on peut, nous, le reprendre de ce qu'il fait ? Alors le diable peut parfois aussi nous conduire dans une certaine forme de cynisme en nous rappelant cette chanson française « Chacun fait ». Vous vous souvenez ça ? Ce qui lui plaît. Ça vous dit quelque chose, hein ? Peut-être les plus jeunes, ça ne leur dit rien du tout. Mais voilà, c'était une chanson. Hein. Chacun fait ce qui lui plaît. Et c'est vrai que parfois on peut penser ça. C'est probablement la pensée qui fut aussi dans le cœur du fils aîné. Il n'a pas dû comprendre que le père lui donnait l'héritage et il s'est dit, mais alors chacun fait ce qui lui plaît en fait. Hein. Voilà, on est libre, hop. Et Dieu donne sa bénédiction. C'est pas possible. Mais est-ce qu'il était au-dessus de son père pour juger son père ? On n'est jamais au-dessus du père pour juger le père. Et est-ce que nous aimons plus les frères et sœurs que Dieu ne les aime ? Ah non, c'est une évidence. Comment nous, on pourrait juger le Seigneur s'il donne l'héritage et s'il laisse partir l'un de ses enfants dans ses propres voies, celle qu'il a choisie ? Dans tout ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, qu'on vient de lire, le Seigneur veut nous enseigner une chose importante et précieuse. Et il y a un thème qui est abordé tout le long du chapitre et qui revient dans chacune des paraboles. Il s'agit de la joie de Dieu devant la repentance de l'homme. La joie de Dieu devant la repentance de l'homme. Regardez, par exemple, verset 5 avec la brebis perdue. Il est dit... Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous avancez, vous prenez l'histoire de la drachme, verset 9. Et il est dit, lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Puis on arrive au fils perdu, au verset 23. Il dit « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons-le et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et là, on voit le bonheur de Dieu devant ses enfants lorsqu'ils se repentent. Dieu cherche des cœurs repentants. Dieu aime les cœurs repentants. Et il attend de nous que nous, eh bien, on ait des cœurs qui soient souples, qui soient malléables, prêts à reconnaître leurs torts, leurs erreurs, leurs chutes. C'est ce que Dieu attendait d'Israël et des religieux. Et c'est ce que Dieu attend de nous aussi, hein, de tous, de l'Église, des chrétiens. nous devrions être caractérisés par la capacité à nous humilier. Nous sommes capables de nous humilier, capables de demander pardon, de reconnaître nos fautes, de nous remettre en question. La vie chrétienne, elle commence le jour où un pécheur dur plie les genoux et se repent et s'humilie. Ça y est, c'est le début. Mais après, ça ne doit pas s'arrêter là. Ce n'est pas « je me repens une fois, j'accepte Jésus ». Non, après, ça caractérise la vie chrétienne. On devrait avoir toujours des cœurs prêts à demander pardon, prêts à reconnaître nos torts, prêts à nous humilier. C'est la vie chrétienne. Ça ne doit pas disparaître de la vie du chrétien. Et là où cela n'est pas, eh bien Dieu veut développer ça dans notre cœur. Il veut faire de nous des chrétiens humbles, petits. Jésus dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur se réjouit lui-même. Il ne dit pas que les anges de Dieu se réjouissent, hein, même s'ils se réjouissent sûrement. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. C'est-à-dire, c'est la joie de Dieu, en fait. Dieu se réjouit d'un cœur humble et repentant. Verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et c'est terrible de ne pas ressentir ce besoin de repentance. Terrible de se sentir juste. Moi, je suis juste. Wow, je suis parfaitement juste, blanc comme la neige. Et on ne se remet jamais en question et on ne se repent pas. L'homme peut s'enfermer lui-même dans un sentiment de propre justice. Et c'était ce qui se passait pour ces Juifs. Ils étaient enfermés dans un sentiment de propre justice. Nous sommes justes, les autres ont tort, les autres ne font pas bien. Et perdre sa capacité de se remettre en question devant Dieu. Et malheureusement, nous chrétiens, on n'est pas à l'abri de cela. Il faut toujours qu'on soit, comment dire, avec des cœurs sensibles et doux et humbles et souples. Sinon, on peut glisser aussi. Mais Dieu aime les cœurs repentants, il aime les cœurs humbles. Alors si on ne sait pas grand-chose de ce fils cadet, puisqu'il n'y a que cette histoire ici, on sait qu'il fallait qu'il apprenne la repentance. Alors Dieu donne parfois l'héritage à son enfant, et puis il le laisse partir dans ses voies, il le laisse faire ses propres choix, prendre sa direction. Voilà, il le laisse. Même si c'est contraire à la sagesse, contraire au bon sens, et même parfois contraire aux Écritures, c'est pas grave. On laisse partir dans sa propre voie. Pourquoi ? Pour apprendre la repentance et ses leçons. Et Dieu permet parfois qu'on fasse un faux pas. Parce que c'est ainsi qu'on va apprendre certaines leçons de la vie chrétienne. On désire une chose, et lui se met en retrait, il nous laisse. Tu veux aller par là ? Vas-y. Il laisse faire. Alors si au commencement le jeune fils en a bien profité, c'est vrai au départ, il s'est bien amusé, hein. Si en apparence tout allait bien pour lui, finalement, ce bonheur éphémère était remplacé par un grand vide, un grand besoin. Et il a appris les trois leçons de la repentance. Regardez, la première se trouve au verset 17 à 18. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et la première leçon de la repentance, c'est la capacité à changer de direction. Le jeune fils s'est remis en question. Il a dit, je sais ce que je vais faire. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je fais un demi-tour. J'irai vers mon père. Il avait choisi une direction qui n'était pas la sagesse. C'était comme un jeune tout fou qui pense avoir raison sur toute la ligne. Souvent, dans l'adolescence, il y a un danger, hein. Faire attention, parce qu'on pense parfois avoir raison aussi sur toute la ligne. Non, il faut être prudent. Hein. Et donc, lui était comme ça. Et dès que le père a cédé à son désir, à ses aspirations, eh bien, il a littéralement couru dans sa volonté propre. Et peut-être même qu'il s'est dit « Oh, c'est merveilleux, Dieu béni, et il me donne un pont d'or. J'y vais, je cours. » Mais finalement, en lui donnant son héritage, Dieu lui a appris à savoir faire demi-tour, à savoir se remettre en question et accepter de revenir sur ses pas.
C'est la première fois que je le vois. Hein, non.
Il a accepté de se remettre en question, au terme hein, de l'histoire. Accepté de revenir sur ses pas. Puisqu'il a fini par dire « Je me lèverai, j'irai vers mon père. » Est-ce que nous savons faire des demi-tours? Est-ce que nous sommes capables de dire « Non, je fais demi-tour. » Même si l'humiliation est terrible. Parfois, l'humiliation est vraiment terrible. Parce que c'est parfois la peur de perdre la face qui nous empêche de faire demi-tour. On préfère rester plutôt que faire demi-tour. La deuxième leçon de la repentance, c'est la capacité de dire « j'ai péché ». J'ai péché. J'écoutais à la radio quelqu'un qui avait fait une enquête sur les crimes passionnels. Et après avoir rencontré des spécialistes et des coupables donc de crimes passionnels, cette personne disait que les criminels ont toujours du mal à dire « j'ai tiré », par exemple. Ils disaient « ça a tiré ». Qui était plus neutre. Ou bien « le coup est parti », plutôt que dire « j'ai tiré ». Et l'homme a du mal à dire « je suis coupable, j'ai péché ». C'est le « je » où on s'accuse soi-même qui est difficile à prononcer. « J'ai péché, je suis coupable ». C'est dur à dire. Mais si l'incroyant a du mal à le prononcer, à le dire, ça ne devrait pas être le cas chez l'enfant de Dieu. Ça ne devrait pas être le cas. Il faut être capable de le dire. Le Seigneur veut qu'on soit vraiment capable de reconnaître nos fautes et de dire « j'ai péché, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, c'était la mauvaise direction. Pardonne-moi, pardonne-moi. » Et pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. On rencontre parfois des chrétiens qui se disent « oh, moi j'ai que des comptes à rendre devant le Seigneur. » Mais non, hein, et non. Pourtant, il y en a qui font du chemin hein, comme ça. Mais non, Dieu veut qu'on soit capable de dire « j'ai péché contre toi ». C'est ce qu'il a dit. J'ai péché contre le ciel, contre Dieu, c'est vrai. Mais j'ai péché aussi contre toi. Être capable de reconnaître sa culpabilité aux hommes, c'est aussi important que de la reconnaître devant Dieu. Parce que si lorsque nous péchons, c'est toujours contre Dieu, c'est aussi souvent contre les hommes. Et une vraie repentance, eh ben c'est aussi une repentance complète. Quand un homme est impliqué, quand une personne est impliquée, ben c'est aussi devant elle. Je lui demande pardon. Troisième leçon de la repentance, c'est la capacité de descendre, de s'humilier. Verset 19, le fils a prévu de dire à son père, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et la repentance, pardon, elle nous apprend l'humilité. La repentance, elle nous fait descendre et accepter ce que nous n'aurions jamais accepté auparavant. Mais parce que nous nous sommes repentis, alors nous sommes prêts à l'accepter. Et ce jeune fils ne voulait plus servir son père. Il voulait vivre sa vie, être tranquille, profiter. Mais le voilà soudain prêt à ne devenir qu'un ouvrier de son père. Je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Maintenant, je suis un ouvrier. Vous imaginez, de fils, on descend à ouvrier, pour dire un esclave hein, pour l'époque. Et là, il ne revendique plus rien. Il ne veut plus... Bon, il a gaspillé l'héritage, vous allez me dire. Hein. Mais il ne veut plus son droit. Voilà, il ne veut plus rien. Il descend. Il veut servir avec un cœur petit. Et c'est là aussi ce que Dieu attend de nous. Qu'on soit cette sorte de serviteur inutile, comme dit Jésus, qui ne revendique rien et qui ne veut que servir son maître. Et donc, dans la repentance, Ben, Dieu nous fait ravaler notre arrogance, notre orgueil, notre suffisance. Et c'est pour ça qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Parce que ça y est, l'embryon de l'humilité est là. Et donc c'est waouh, waouh. Personne ne peut passer au travers de ces leçons de la repentance. Si nous sommes enfants de Dieu, il nous l'apprend. À chaque fois, on ne peut pas passer outre. On va l'apprendre si ce n'est pas déjà fait. Et il reviendra dessus si ce n'est pas acquis, s'il y a besoin encore. Ben, il va le refaire et le refaire encore. Parce que la repentance, c'est un signe d'un christianisme qui est authentique. C'est le vrai christianisme. On entend hein, des personnes qui sont touchées dans l'Église parce qu'elles ont entendu quelqu'un demander pardon à quelqu'un d'autre. Elles n'ont jamais vu ça. Ça n'existe pas. Dans le monde, on dit « je m'excuse hein, du bout des lèvres de temps en temps » ou « je suis désolé, mais je te demande pardon ». Alors là, c'est quelque chose. Un jour, j'ai une sœur qui est venue me voir et qui m'a demandé pardon pour une chose qui était mais des années auparavant. Et parce que, non, elle voulait vraiment être le cœur léger. Il y avait cette petite chose qui traînait, voilà, loin, derrière. Voilà, cœur léger. Ça y est. Et donc, un chrétien est quelqu'un qui est normalement empreint de cet esprit de repentance. Il doit être prompt à la repentance. Alors, si Dieu permet un pont d'or dans une voie qui ne semble pas la bonne, c'est que dans son amour, il va faire tout concourir à son bien, au bien de son enfant, qui parfois eh bien, est rebelle, et il va lui apprendre la repentance. Il lui donnera cet esprit de repentance, finalement, cette humilité dont nous avons tous besoin. Alors, après la lecture de ces paraboles, et de tout ce que je viens de vous dire, on peut encore avoir un raisonnement. On peut se dire, mais puisque l'amour du Père ne change pas, Dieu aime toujours ses enfants, qu'ils soient dans la maison ou qu'ils partent dans leur propre chemin, eh ben, pourquoi rester dans la maison hein? On peut aller profiter. Lui, il a été accueilli avec le veau gras, avec les chaussures aux pieds, avec la bague, avec les vêtements. Et c'est vrai que ça peut être tentant de dire « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et puis hop, on trace sa voie, on fait ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier ce par quoi le fils cadet est passé. Parce que si tout se passe bien au début, il finit toujours par arriver une famine. Au bout d'un moment, il y a une famine. C'est-à-dire, c'est une situation qui n'a pas été prévue. On n'a pas anticipé, forcément. Hein. Fils prodigue, jamais un instant, il a pensé, un jour je vais garder des cochons. Et non, ça ne lui est pas passé par la tête. Et en dehors des voies de Dieu, on finit tôt ou tard, par se retrouver dans le besoin. Alors, ce n'est pas nécessairement le besoin de pain. Il y a toutes sortes de besoins qui peuvent nous assaillir. Ça peut être le besoin d'affection, le besoin de compréhension, le besoin de prière, le besoin de conseil, le besoin d'amour, le besoin d'amour fraternel, le besoin d'enseignement, le besoin d'aide, le besoin du Seigneur, de sa présence, de son secours. Et Dieu peut permettre des famines quand on choisit nos propres voies. Et c'est là que le fils cadet a commencé à souffrir. Souffrir de l'abaissement et d'un travail difficile, gardien de cochon. Je me souviens quand on était quelques années en arrière avec nos enfants qui étaient plus petites. Hein, on devait avoir à peine Joshua, je crois, ou pas encore. Hein. On allait à Bonpas regarder les animaux, là, il y a quelques animaux. Et il y avait des cochons. Une demi-douzaine de cochons. Et c'est une chose que de regarder derrière la clôture les cochons qui se roulent dans leurs besoins, etc. Et c'en est une autre que d'être assis au milieu, hein, les pieds dedans, et de leur donner à manger. Ça, c'est autre chose. Et de sentir toutes ces odeurs. Le fils cadet, il a aussi souffert de l'égoïsme. Imaginez ça. Il voulait manger ce que les cochons mangent et personne ne lui en donnait. Donc, voilà. On le méprisait. Hein. On le rejetait. Et donc, il a souffert la faim, souffert la solitude, souffert la pauvreté, la misère, le rejet des autres. et toutes ces souffrances pour apprendre quoi ? La repentance. Cette remise en question qui conduit à faire un demi-tour, à confesser et à s'humilier. Prendre l'héritage pour s'en aller dans la direction que nous voulons, ça peut être séduisant, mais il faut penser aussi, se dire, mais il peut y avoir des conséquences. Il y aura des conséquences. Un jour ou l'autre, on va apprendre ce qu'on n'a pas voulu apprendre dans d'autres circonstances. Parce que finalement, Dieu continue son œuvre de sanctification. Et quel que soit le chemin que l'on prend, on apprendra ce que Dieu veut qu'on apprenne. Quel que soit, peu importe. Mais probablement, il y a des chemins qui sont un peu plus agréables que d'autres. Donc, on apprend mieux et plus vite si on est docile dans ses voies que si on est rebelle et on fait ce qu'on veut. Ça, c'est certain. Il y a des leçons parfois qui sont douloureuses. Et l'apôtre Paul nous enseigne que devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pont d'or qui permet à quelqu'un d'échapper à l'apprentissage de Dieu. Ça n'existe pas. Dieu finit toujours par nous apprendre ce qu'on doit apprendre. Et le Père n'a pas favorisé le fils cadet en lui donnant la part de son héritage, en lui laissant faire ce qu'il voulait, parce que finalement, ce fils a connu nombre de souffrances qu'il aurait pu éviter et apprendre d'une autre manière. Et donc, on ne devrait jamais jalouser notre frère en se disant, mais alors lui, il a décidé de faire ce qu'il veut, et il fait ce qu'il veut. Non, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Comme si quelqu'un peut faire ce qui lui plaît. Il ne faut pas agir ainsi. Pourquoi ? Parce que c'est la réaction du fils aîné. Quand vous regardez sa réaction à la fin, regardez versets 28 à 30. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Et on se dit parfois, tout va mieux pour le mieux pour celui qui fait ce qui lui plaît. Dieu lui donne ce qu'il veut, il revient avec un cœur repentant et hop, il est accueilli. Hein ? C'est pas juste. Mais il n'y a pas de chemin d'indépendance, de chemin détourné, de volonté propre, sans qu'il y ait aussi un lot de souffrances et un lot d'épreuves. Ça va avec. Si on fait nos propres choix, ça va avec. Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème quelque chose pour la chair, il le moissonnera. Il le moissonnera. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, vouloir rester dans la maison du Père pour faire sa propre volonté, obéir à sa propre voix, c'est pas la bonne chose. Pardon. Vouloir rester dans la maison du Père pour faire ce que Dieu veut, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Regardez verset 31. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Qu'y a-t-il de plus précieux que la présence de Dieu le Père ? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que l'approbation sur sa vie ? Ça, c'est la vraie richesse. Avoir l'approbation de Dieu. Savoir que le Père a un regard bienveillant, approbateur, c'est quelque chose qui est sans prix. Et le fils aîné, il avait perdu de vue cela. Demeurer aux côtés de Dieu le Père, servir Dieu le Père, grandir dans la connaissance de Dieu, être toujours avec lui. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur sur la terre. J'écoutais le témoignage d'une chrétienne qui avait, à cause de son mari, épousé la culture japonaise. Donc, elle était partie vivre au Japon. Et ça représentait nombre de contraintes. Parce que, quand on change de culture, c'est toujours difficile. Et elle s'est retrouvée dans la famille de son mari. Et son mari était l'aîné. Et quand son mari est l'aîné, son épouse devient, en quelque sorte, la servante des autres. Alors, vous imaginez ça, pour une Française? C'était vraiment pas facile. Et pourtant, elle a accepté. Elle s'est pliée à ses coutumes, pas parce qu'elle aimait ça, mais parce qu'elle aimait son Seigneur. Et elle est devenue un témoignage rayonnant au sein de cette famille japonaise, qui était surpris. Pourquoi ? Parce que même les Japonaises ne veulent pas se plier à ce genre de choses. Aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est terminé. Et tous disaient, mais c'est incroyable. Et la famille proche disait, mais oui, mais c'est parce qu'elle est chrétienne. C'est parce qu'elle est chrétienne. Et ça a été un témoignage. Et quand on goûte à l'approbation de Dieu sur sa vie, on ne peut plus s'en passer. Même s'il y a des contraintes, même si parfois c'est dur. On préfère rester dans le plan de Dieu, dans le plan qu'il trace. Et puis on voit que le fils aîné, en colère, a mis en avant le fait que le père ne lui avait jamais rien donné. Comme si il n'y avait pas droit, alors que lui, il était fidèle à son père. Il était travaillant consciencieusement pour son père. Et le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Tout est à toi. Et c'était terrible de se sentir lésé par Dieu. Comme s'il était injuste avec nous. Voilà, il donne à lui et puis il ne me donne pas à moi. Il bénit les autres et puis il ne me bénit pas. C'est terrible de se sentir lésé. Et c'est un mensonge. Qui est plus riche que celui qui reste sous la houlette de Dieu? Qui est plus riche? Qui est plus riche que celui qui reste fidèle dans la demeure de son Père, à faire ce que Dieu veut? Il n'y a personne qui est plus riche. On a Dieu avec nous. Paul a dit « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et on est infiniment riche en Jésus-Christ, puisque tout est à nous. Tout est à nous. Notre Père, c'est le Créateur, c'est le légitime propriétaire de tout. Alors, eh bien, voilà, ses enfants, ils sont aussi héritiers de tout cela. Et tout ce qu'on reçoit, on le reçoit de sa main. Maintenant, il faut avoir confiance dans l'amour du Père. Confiance qu'il nous aime. Et le fils aîné, il avait justement un problème avec ça, avec l'amour du Père. Il ne croyait pas que le Père l'aimait. Il pensait qu'il y avait du favoritisme. Mais le Père a démenti. Ce n'était pas vrai. Dieu ne fait jamais de favoritisme. Et quand on pense qu'il en fait, eh bien on ne voit pas l'envers du décor. On ne voit pas la partie cachée. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Maintenant, si Dieu ne veut pas qu'on ait le veau gras aujourd'hui, alors eh bien il a une raison. Il est en train de faire tout concourir à notre bien. Donc c'est son œuvre. Il faut aussi lui faire confiance. Mais j'aimerais conclure ce message et vous parler du danger qui guettait celui qui était resté dans la maison. Parce que le fils aîné est dans cette parabole une image des Juifs qui eux, eh bien, étaient restés dans la maison. Ils étaient religieux, ils étaient attachés à Dieu, entre guillemets. Hein. Et donc eux, ils étaient dans la maison, tous ces pharisiens. Et il faut bien faire attention à ne pas se sentir en tant que chrétien meilleur parce qu'on se dit, ah ben moi au moins je sers fidèlement. Moi au moins, parce que c'est vraiment pas une bonne chose, hein. C'est pas parce qu'on n'a jamais pris notre indépendance du Seigneur, jamais réclamé notre héritage, qu'on est mieux qu'un frère cadet qui s'est éloigné. Non, on n'est pas mieux. On est aussi, on a la même capacité à pécher. Et peut-être ça se manifeste dans d'autres voies, hein, mais le péché, il reste là. Et lui, il montre sa colère, il montre sa jalousie, il montre son esprit de jugement, et il prouve que cet esprit de repentance que Dieu chérit tant, eh bien, lui, il ne l'avait pas acquis. Il ne l'avait pas. Et à lui aussi, eh bien, il fallait qu'il reconnaisse ses fautes, qu'il accepte de changer d'attitude, de direction, d'apprendre l'humilité. Alors le Seigneur ne nous dit pas ce que fit l'aîné, s'il a pris ou non la bonne attitude. Pourquoi ? Parce que la parabole était justement destinée à tous ces pharisiens qui étaient en train d'écouter. Mais il faut se poser la question, peut-être pour terminer, quoi de plus précieux qu'un cœur qui est petit et repentant ? Il faut se poser la question par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on fait la joie de notre Père parce qu'on demande pardon ? Parce qu'on se repent, parce qu'on reconnaît nos fautes. Et on dit, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon. C'est quelque chose qu'il faut qu'on garde dans notre cœur. C'est quelque chose de précieux. Apprendre à faire demi-tour.